Surpris par la nuit.
Royaume Forain Remix, deuxième partie, hors piste, les corps des limites. Par Yann Siré, réalisation Anne Fleury. Le cirque a toujours porté les états du corps à leur incandescence, le transformant en machine expérimentale. Le désir de tout voir, de l'encyclopédie de la nature et de la mécanique corporelle, est une constante des évolutions et mutations de l'univers circassien. Aujourd'hui, comme jadis dans les entresorts, la monstration se rapproche de la performance, au sens où les arts plastiques l'ont pratiquée à travers la modernité et les avant-gardes. Un spectacle comme Voir barré au cube de Laurent Chanel reconfigure un dispositif avec ses cubes à exhibition et cubes à contemplation. S'inspirant de la chronophotographie de Marais et Muybridge, le corps se recompose sous un effet de stroboscope. Voir barré au cube est une attraction foraine expérimentale. D'autres expériences poussent les corps aux limites. Dans Warm, les acrobates enchaînent leur portée dans une chaleur de plus en plus intense. Philippe Ménard se pose la question : comment continuer à vivre dans une peau qui n'est pas la sienne ? Par quelles épreuves va-t-on passer pour s'en libérer ? Habité par des questions identitaires, le jongleur imagine un dispositif extrême qui soumet son corps à une seule et unique compagne, la glace. Toujours mouvante, tantôt complice imprévisible, tantôt adversaire redoutable, elle réveille en lui des états inexplorés qui participent de sa mutation. Les self-hybridations d'Orlan répondent à ces questions du transgenre par des remixages du corps. C'est le réel lui-même qui tend vers l'impossible, comme le duo Mathurin Bolz et Edith Abbey, où le handicap devient une autre forme de virtuosité et de grâce. Et s'ils bâtissent une bête de foire, ils engagent aussi une humanité fraternelle, guerrière, violente et lascive, dans une danse vitale scandée par un appel constant au dépassement de leur propre identité. Secret mystérieux comme ce chant qui s'élève et que la légende dit composé par un condamné à mort, leur bataille vient rappeler dans leurs actions que le cirque est fait aussi d'auteurs anonymes et inconnus.
Moi, je viens plutôt du monde du cinéma. Je me destinais plutôt à l'intérieur de ça.
David Bobet.
Et passionné d'art plastique depuis tout petit. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un groupe d'acteurs qui m'a attiré vers les plateaux de théâtre. Et j'étais passionné d'écouter ce que ces acteurs-là, qui avaient déjà une certaine expérience du plateau, pouvaient m'apprendre sur moi et ma pratique et ma recherche. Et puis en m'intéressant aux acteurs, je me suis intéressé pas qu'à leur tête, à leur voix et à leur texte, mais aussi à leur corps. Et en m'intéressant à leur corps, forcément, je me suis intéressé au mouvement, donc arrivé plutôt du côté de la danse. Et le cirque est arrivé après la proposition de Jean Vinet, qui dirige le Centre des Arts du Cirque à Cherbourg, qui m'a dit « tu as quelque chose à faire avec les arts du cirque ». Je ne savais pas du tout quoi, mais prêt à tenter l'aventure. Et effectivement, j'ai découvert quelque chose qui m'a passionné, quoi, qui m'a déplacé, un déplacement supplémentaire, c'est-à-dire un rapport au corps et au mouvement très concret que je pouvais comprendre, que je pouvais observer, que je pouvais il y a quelque chose de très réel, beaucoup plus que dans la danse, je trouve, cette espèce de métalangage de la danse à ce moment-là m'était encore un petit peu étranger. Et là, il y a quelque chose de concret, un acrobate qui monte sur son machinois, il tient le truc, quoi. Et s'il lâche, il tombe, quoi. Il y a quelque chose de...
Une sorte de physique très particulière.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, je trouve, dans les arts du cirque qui est comme une espèce de décollement du réel. C'est des corps qui d'un coup se décollent au sens propre, décollent de la gravité, décollent d'une situation. Et pour quelqu'un qui aime à travailler les images, la poétique des images, le sens du mouvement, et bien voilà, il y a quelque chose de passionnant à entrer là-dedans. Voilà.
Et vous, qu'est-ce que votre attention s'est portée sur justement ces acrobates avec ce style de portée là en plus
Mon rapport au cirque, ou même au théâtre, part toujours plus d'une rencontre avec des personnes. J'ai fait la rencontre de Frédéric Arsenault et Alexandre Frey, qui venaient de créer leur, ce duo de portée, main à main, porteur et voltigeur. Et en les faisant travailler, en les écoutant travailler, j'ai vu tout le potentiel de sensualité qu'il pouvait y avoir avec ce couple-là, enfin, ces deux corps d'hommes très, très masculins qui se sont, par la force des choses, obligés de se toucher, peau contre peau, enfin, quelque chose me passionnait là-dedans, sur l'homosensualité qui pouvait se dégager de leur discipline, presque malgré eux. Voilà.
C'est-à-dire qu'avant, ce qui était implicite, là, dans Warm, est explicite. Parce que le mot érotisme dans la voltige ou chez les acrobates ou même dans d'autres disciplines, elle y est. Mais simplement, elle est mise à distance, justement, parce que, pour ne pas choquer, pour des raisons historiques aussi. Mais alors, comment est venue l'idée de porter ces corps ? Alors, c'est le cas de dire à incandescence, enfin, c'est-à-dire donc par la chaleur, qui est normalement l'ennemi, enfin, de parce qu'effectivement, c'est la sueur, la glisse, etc. Donc, on voit qu'ils s'enduisent les mains de craie pour pouvoir tenir. Comment vous avez eu l'idée de pousser à la limite, en fait, leur discipline ?
Eh bien, encore une fois, en les voyant travailler, en les voyant s'enduire les mains, les pieds, la peau en permanence de magnésie pour éviter la sueur, pour éviter de glisser. Et on le sait, au cirque, la contrainte ou l'épreuve, la difficulté, c'est une source de créativité. Voilà, la contrainte de la gravité est une source de créativité pour la plupart des acrobates. Et ben là, voilà, c'est pareil, je les voyais se passer de la magnésie en permanence. Et puis les quelques lumières qu'on avait mis lors de ce workshop, les faisait suer, je les voyais s'éloigner des sources de chaleur, quoi. Donc j'ai eu très très vite envie de rapprocher les sources de chaleur et de voir ce que ça faisait, de voir comment ça allait déconstruire l'idée de performance, parce que c'est des acrobates qui ont une technique incroyable, vraiment des très très grands techniciens, mais de voir comment leur pire ennemi pouvait les amener à inventer un autre type de performance, quoi, celui de tenir malgré tout, tenir malgré la chaleur, tenir malgré l'effort, parce qu'il fait quand même 50 degrés sur le plateau. Et alors visuellement on le voit que c'est chaud, mais l'idéal c'est d'aller à l'intérieur de cette structure de 110 parts, de 110 projecteurs. C'est incroyable la chaleur, et encore plus gênant que la chaleur peut-être c'est la luminosité à l'intérieur. C'est ce qu'ils me disent, hein, c'est que la vraie épreuve elle est aussi dans la visuellement, quoi. Ils sont obligés de faire leur portée au bout d'un moment les yeux fermés.
Tout su, tout blanc, corps nu, blanc, 1 mètre, jambes collées comme cousues. Lumière, chaleur, sol blanc, 1 mètre carré, jamais vu. Mur blanc, 1 mètre sur 2. Plafond blanc, 1 mètre carré, jamais vu. Corps nu, blanc, fixe, seuls les yeux, à peine. Traces fouillies, gris pâle, presque blanc sur blanc. Mains pendues, ouvertes, creux, face, pieds blancs, talons joints, angle droit. Lumière, chaleur, face blanche rayonnante. Corps nu, blanc, fixe, hop, fixe ailleurs. Samuel Beckett, Bing.
Il y a aussi ce phénomène d'amplification, c'est-à-dire qu'en fait la chaleur, elle n'est pas tout de suite, elle monte, hein, c'est ça, hein, elle est graduée.
Ça reste très très concret, c'est-à-dire qu'ils commencent à se déshabiller parce qu'effectivement la chaleur monte. Les corps se rapprochent parce que la lumière les écrase et ils sont obligés de se protéger l'un l'autre et de se faire de l'ombre. Et quelque chose comme ça qui, dans toute cette installation, est concret. L'érotisme arrive dans un deuxième temps, quoi. C'est comme ces miroirs qui sont au fond qui vibrent, c'est le son qui fait vibrer ces miroirs, c'est les infrabasses, c'est quelque chose de concret, c'est pas de l'effet, quoi. C'est pas un effet érotique, érotisant. Et c'est ce que me permet aussi le texte écrit par Ronan Chesneau, qui est porté par Virginie Vaillant, me permet de prendre en charge le discours érotique. Et les garçons, eux, sont dans la performance acrobatique, qui commence par un échauffement, et puis une partie très technique, une partie très très sur l'effort, sur tenir malgré tout. Mais la chaleur les écrase et nous permet de projeter cet érotisme-là presque malgré eux.
Ils ont été je pense qu'ils ont dû être extrêmement surpris, enfin de...
Bah, je crois qu'ils ont été d'abord très excités par le projet, par l'idée de mettre leur pratique au défi d'eux, qui est encore une fois une démarche vraiment typiquement circassienne, quoi. Le défi, est-ce qu'on peut aller là, est-ce comment contrer, comment trouver les chemins. Enfin, c'est vraiment un moteur de créativité. À la fois un peu effrayé aussi, je crois, par évidemment que la question de l'homosexualité se pose dans un duo de portée corps à corps homme, et qu'ils avaient plutôt tendance à gommer ça, à plutôt aller chercher des choses du côté de la fraternité, de la gémilité, voilà. Et là, le fait que je leur propose très clairement d'aller chercher là-dedans, bon, bien sûr, ils sont allés là pour le coup un petit peu prudemment. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ils venaient de créer leur duo quand je les ai rencontrés, et ils ont eu besoin de faire leur duo, qui est le spectacle Appris par corps, qui est un spectacle vraiment sublime, mais de faire leur duo, d'écrire leur histoire avant de se permettre de la déplacer et de la décaler avec la proposition de la chaleur que j'aurais fait.
Alors de toute façon, c'est vrai que la question circassienne pour moi a toujours été une question très épineuse. Je la vis parce que je pratique une forme artistique à la base qui est la jonglerie, qui a une étape de sa vie est passée par le cirque. Mais
Philippe Ménard.
Pour moi, lorsque je me décide à travailler avec la glace, c'est en effet peut-être premièrement un retour avec une notion très circassienne simple. C'est un défi avec une loi physique. Mais c'est un défi finalement avec la vie et la mort. Et je pense finalement que le cirque est à cet endroit-là. C'est au moment où finalement les spectateurs viennent voir quoi ? Un défi humain, une forme d'utopie. Alors moi, c'est dans cette notion-là qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la notion de l'utopie. On sait pertinemment qu'en venant voir PPP, on a une idée, c'est quelqu'un qui va travailler avec de la glace, mais on sait déjà que c'est perdu d'avance. On ne peut pas dompter la glace. Elle casse. Si j'attends, elle fond. Donc, finalement, je reviens à ce côté épopée qu'on allait voir dans le cirque. C'est l'homme qui défie la nature, et en sachant pertinemment qu'il n'arrivera pas à défier la nature, mais peut-être qu'il va repousser les limites de l'acceptation humaine. Le choix de la glace, il s'est imposé pour moi dans une démarche qui était déjà celle de réfléchir sur ce que j'appelais l'injonglabilité, c'est-à-dire sortir des codes de la jonglerie par rapport du spectateur. C'est-à-dire que finalement, le spectateur qui voit une balle sait que bon, bah, le jongleur il va jongler avec une balle. Au moment où on lui propose un pneu ou on lui propose de la glace, il ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc pour moi, c'était déjà le premier élément. La glace, c'était une évidence parce que c'était la matière de toutes les transformations. Elle peut se transformer à vue et finalement, elle a aussi une beauté, mais elle a une très grande défiance. Et quelque part, c'était pour moi le meilleur des symboles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, cette défiance se faisait dans la matière, et en même temps, elle se faisait dans la beauté. Ça veut dire que le corps, c'était la même chose. Pour la personne trans qui change son corps, finalement, il y a une beauté, mais il y a une défiance. On en a peur, on en a des craintes. Nous sommes certainement les derniers monstres de la société. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec le travail de Judith Butler sur les troubles gender. Et finalement, tout cet univers, cet espace qui est créé, est un espace d'une énorme solitude, car c'est la solitude qui habite les personnes trans. C'est une réalité. Les congélateurs que j'ai sur scène, qui sont en effet des robots, qui se déplacent tout seuls, qui parlent, sont finalement, presque pour moi, c'est Blade Runner, c'est les réplicants. Ça veut donc dire que c'est un monde que la personne s'invente pour avoir une forme d'humanité, mais c'est une humanité très froide. Là encore une nouvelle fois, finalement, c'est un symbole très particulier, comme de sortir d'un congélateur, que ce soit du coup devenu une sorte de garde-robe où je rentre dedans pour ressortir, comme si à chaque fois il y avait la question de la conservation qui pouvait se produire à cet endroit-là.
Comme il n'y a donc plus de frontières en fait, entre masculin, féminin, entre les éléments, est-ce qu'au fond l'autre, parce qu'en fait c'est effectivement une espèce de solitude qui est montée, en plus une solitude dans un monde froid, enfin refroidi. Le fait est que il est seul et que donc l'autre est en lui-même. Il est obligé d'aller chercher l'autre ou des autres en lui-même.
Mais c'est toute la question de la difficulté à se définir. On choisit son identité. Je pense vraisemblablement dans une société telle que la nôtre, c'est de plus en plus flagrant. On est une société où finalement, dans un monde avec une énorme virtualité, on voit apparaître dans les nouvelles générations une envie d'hybridation. on se prend comme référence des imaginaires qui sont ceux du manga. On commence à voir finalement des gens qui se créent leur propre identité, et je pense que c'est le seul moyen de se sauver dans une société que l'on assimile très simplement. On la voit, on sait ses repères. Finalement, au moment où on est en rejet de ses repères, je pense qu'on pouvait faire le choix d'être punk, ou aujourd'hui on peut faire le choix d'être hybride. Je pense que c'est une solution, c'est une forme de métissage finalement. À partir de là, je pense que pour la question d'identité propre à PPP, en effet, on bascule sans arrêt dans le fait que je suis encore dans un corps d'homme et je vivrai toujours dans un corps d'homme, même si les hormones font des changements. Mais finalement, mon ossature restera celle d'un homme. Donc à l'intérieur de mes gestes, on retrouve finalement toute cette dualité entre la féminité et la masculinité. Les gestes et ceux qui sont, je dirais, ceux qui m'ont été appris et ceux que j'ai cherchés. Et finalement, c'est tout ça qui se raccorde dedans. Alors c'est vrai que la glace apparaît comme un élément aussi qui renvoie à ça, parce que, par exemple, en effet, vous parliez de cette dernière scène, il y a un moment où, en effet, je me retrouve collé à la glace. Et finalement, c'est peut-être le rappel le plus terrible, c'est que c'est la pesanteur. On ne se détachera pas du sol, finalement. Parce qu'avant, j'ai joué, j'ai pu m'envoler, j'ai pu créer d'ailleurs même une sorte de tempête de neige. Finalement, à cet endroit-là, la matière se fait presque métaphore de la société. La société vous tiendra toujours.
Pas l'identité, pour moi, c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est
Orlan,
qui m'intéresse que si c'est des identités nomades, mutantes, mouvantes. Et d'autre part, dans la vie, on n'a pas un corps, on a des corps, et des corps extrêmement différents, le corps d'un adolescent ou le corps d'un vieillard ou d'un bébé. Mais en plus, quand tous ces corps sont malades ou sont en train de jouir ou sont en peur, etc. Toutes les chimies internes sont extrêmement différentes. Donc ce sont des corps avec des chimies, des attitudes, des choses extrêmement différentes, donc qui rendent complexes en fait nos identités, ou qui, dans un certain contexte de guerre, de torture, ou de plaisir, peuvent tout à coup avoir des attitudes non révélées, tout à fait différentes de celles qu'on pouvait imaginer être l'identité même de la personne. Donc j'ai essayé à la fois de brouiller les pistes, de montrer autre chose, dès le départ d'aller dans des conférences féministes, par exemple, avec une grande pancarte sur laquelle il y avait écrit « Je suis un femme et une homme ». Enfin, sans arrêt, essayer de montrer que les choses sont mouvantes, ne sont pas fixes, ne participent pas à tous les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête. Il y a eu une prise de conscience à un certain moment, même bien avant les opérations chirurgicales, que on ne peut plus dire « je », ou alors entre guillemets, entre parenthèses, entre tirets, je ne sais quoi, c'est « je somme », c'est pas « je suis », en tout cas. Et donc les self-hybridations, c'est vraiment l'idée à la fois de faire coexister et de s'appliquer à soi-même l'image de l'autre, et puis être en même temps avec l'autre, dans l'autre, par l'autre, mais en sachant très bien, pour le moment, il y a des théories qui disent que l'autre n'existe plus, mais je crois que c'est absolument fou.
En tout cas, il y a une chose certaine.
Michel Foucault, 1966.
C'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Après tout, une des plus vieilles utopies que les hommes se sont racontées à eux-mêmes, n'est-ce pas ? Le rêve de corps immense, démesuré, qui dévorerait l'espace et maîtriserait le monde. C'est la vieille utopie des géants, qu'on trouve au cœur de tant de légendes en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Cette vieille légende qui a si longtemps nourri l'imagination occidentale, de Prométhée à Gulliver. Le corps aussi est un grand acteur utopique quand il s'agit des masques, du maquillage et du tatouage. Se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer. Acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare, dépose sur le corps tout un langage énigmatique, tout un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré, ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare, ils placent le corps dans un autre espace, ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace.
Le choix de la glace, il s'est imposé pour moi. Elle nous permettait de donner tout ce qu'il y a de plus vivant. Finalement, c'est un sang, c'est du sang. C'est ce qui nous constitue. Et en même temps, c'est ce rappel incroyable que l'être humain est entouré de beauté et en même temps que la beauté peut être dangereuse. Finalement, pour moi, le plus dangereux dans le spectacle n'est pas forcément la glace, mais c'est l'eau. Parce que c'est elle qui provoque la position parallèle au plancher. C'est elle qui vous ramène dans cette situation-là. En même temps, c'est celle qui nous fait vivre. Et c'est là tout le paradoxe, c'est peut-être ce rappel de la matière et de finalement de notre rapport d'oubli. Et pour moi, c'est vraiment important. Je pense que les spectateurs qui viennent voir PPP se retrouvent dans une situation où finalement, je ne fais qu'ouvrir un chemin et c'est eux qui créent leur imaginaire. Tout simplement parce que, ne serait-ce que lorsque je vais m'allonger dans la glace pailletée qui est à moins 20 degrés, je sais pertinemment que inconsciemment ils font dans leur corps... C'est froid. Et finalement, il se projette à ma place. Je ne suis du coup, à cet endroit-là sur scène, que le moyen de les laisser se projeter. Se projeter dans le fait de se dire, qu'est-ce que c'est que la féminité ? Qu'est-ce que c'est que la masculinité ? Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Et tous ces éléments-là sont pour moi les éléments les plus importants. Je ne veux pas être didactique. Je veux qu'à cet endroit-là, le spectateur puisse s'imprégner, rentrer, prendre cette position très particulière, se sentir à cet endroit-là. Et finalement, c'est pour ça que je dis, c'est l'envie d'être vivant.
Est-ce que, en fait, ce spectacle-là ne révèle pas ce qui déjà était dans le cirque, mais elle est inconsciente, en fait. C'est-à-dire que le trouble qu'on ressent, on le ressent aussi, mais on s'explique moins, disons, dans un cirque plus classique. Mais quand ça a attiré beaucoup, beaucoup d'artistes, en fait, à un certain moment, où c'est devenu vraiment une matrice très importante pour les arts, les avant-gardes, et tout.
Mais, bon, je pense que je n'ai fait que... une tentative de remettre au goût finalement quelque chose pour moi qui était essentiel. C'est que ça fait 20 ans que je jongle, j'ai pratiqué et j'ai eu les enseignements du maître Jérôme Thomas, donc qui a vraiment amené une image à la jonglerie, c'est-à-dire qu'il a fait un travail incroyable et ensemble on a fait un travail pour vraiment faire que la jonglerie soit une forme d'écriture et qu'elle puisse avoir la possibilité d'avoir un effet de... Voilà, autant de narration que d'imaginaire et de porteuse, quoi. Mais je pense qu'il y a une chose qui est devenue essentielle, c'est que finalement, c'est devenu une banalité. La jonglerie, on la voit partout. Elle est pratiquée comme un sport. Les Américains veulent en faire une discipline olympique. On en a l'image dans les publicités, sans arrêt, où dès qu'on veut parler de flexibilité, on met quelqu'un qui a les bras en l'air avec des objets qui volent au-dessus de sa tête. On a utilisé le terme « jongler » avec son emploi du temps. Finalement, on est devenu une banalité, et comme moi, pour l'essentiel, c'était de me dire, je veux que les personnes, les spectateurs, continuent à aller voir du jonglage. Alors finalement, à cet endroit-là, je me repose la question, mais qu'est-ce qui manque au jonglage ? Il lui manque son danger. Il lui manque son enjeu. Quel est l'enjeu ? Ça fait plusieurs décennies qu'on voit, en effet, une énorme formation aux arts du cirque. Ça s'est démocratisé, tant mieux. Je suis enfant d'ouvrier. J'ai eu cette chance de la démocratisation. Mais à un moment, Je m'offusque en me disant, si on veut continuer à provoquer finalement dans une société comme la nôtre où tout est prévisible, il faut qu'à un moment, on sorte de cet état-là et faire que la curiosité va faire que nous, on doit se mettre en danger. Alors le danger, il est là, en effet, c'est que qu'est-ce qu'il advient du jongleur lorsque les objets sont suspendus de sa tête, au-dessus de sa tête et qu'ils tombent de manière aléatoire ? Ou qu'est-ce qu'il advient du jongleur lorsque l'objet qu'il a entre les mains va fondre s'il attend ou s'il loupe, va casser ? C'est donc dire qu'automatiquement, on va mettre face au spectateur non plus le fait qu'une balle rebondisse et puis on a une seconde chance. Non, il n'y a pas de seconde chance. Finalement, au moment où on joue sa vie, il n'y a pas de seconde chance. Alors on fait un choix déterminé. Et finalement, c'est peut-être là le rapport avec les grandes heures du cirque. C'est que l'engagement humain, il se faisait, là encore une nouvelle fois, dans le terme de l'utopie. C'était une personne pour une utopie, mais pour l'utopie de tous. C'était l'utopie d'arriver à... Est-ce qu'on va pouvoir défier ? Et finalement, c'est comme l'utopie d'aller sur la Lune. Finalement, à un moment, on était tous derrière Apollo 11 pour que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune.
Jean-Thomas, je crois que l'un de vos premiers souvenirs, je crois que à l'âge de 8 ans, c'était un spectacle de Caroline Carson.
Oui.
Et dans les spectacles récents, il y a la musique de John Cage, Elia, qui n'est pas si loin de cet univers-là, et Ligeti aussi. Alors, pourquoi être parti plutôt du côté des Fratellini, du côté du monde circassien, alors que ce premier, éblouissement, révélation, appelons-le comme on veut, était plutôt du côté de la danse, de la chorégraphie, oui, et de l'art moderne, en fait. Oui.
Avant d'être un créateur, on est un acrobate, ou on est un jongleur, ou on est un danseur, ou on est un acteur, ou on est... Et puis on devient, par la force des choses, je pense, parce que c'est quelque chose qui est plus grand que nous. La création est quelque chose qui nous dépasse, je pense, profondément. Et qui nous amène à comprendre petit à petit que ce n'est pas le corps de métier, mais c'est tout simplement la création qui génère une action. Et c'est ces actions-là que j'ai menées tout au long de ma vie, qui sont ou des actions liées au jonglage, ou des actions liées à l'acrobatie, ou à la danse, au mouvement. Mais en profondeur, c'est le métier de créateur. Et ce métier-là, je ne sais pas si c'est un métier.
Il y a une sorte de... Appelons ça une sorte de science du jonglage que vous avez non seulement hérité,
oui,
dont vous travaillez aussi la transmission, ce qui est quand même rare et c'est quand même une chose très importante à mon sens. En même temps, vous l'avez d'une certaine façon, certains ont pu le dire, révolutionné, notamment avec le jonglage cubique.
Alors en fait, la création de ce concept, hein, c'est à la racine, c'est l'interrogation que j'ai toujours eue depuis que je suis môme, à la vision que j'ai pu observer sur les jongleurs que je voyais jongler. Tous les jonglages m'ont intéressé, m'ont passionné depuis que je suis môme, et notamment les jonglages les plus simples. C'est ces endroits-là qui m'ont le plus fasciné dans ma vie artistique. C'est pourquoi le jongleur qui jongle à 3 balles, il a une main qui est plus basse que l'autre. Pourquoi quand le jongleur à 3 balles, il jongle, il a sa tête qui fait un petit peu ça. Pourquoi quand j'étais môme, je tirais la langue quand je jonglais à 3 balles. Pourquoi le jongleur quand il jongle à 3 balles, il a un pied devant l'autre. Pourquoi, c'est que des pourquoi sur des questions élémentaires. C'est ces questions élémentaires qui m'ont mis sur la piste de me dire quelle serait la position idéale pour que quand il jongle, il puisse jongler sans se fatiguer, avec le moins de pertes possibles sur les objets qui tombent, sur une fiabilité, sur une assurance, sur une endurance, sans qu'il se fatigue. C'est-à-dire, quelle serait la chose la plus simple du monde pour qu'on mette tout le monde d'accord sur l'apprentissage de jongler. C'est ces questions-là qui m'ont mis sur la piste d'un univers immense, qu'on appelle le jonglage cubique, qui, dans, je dirais, sa définition la plus, je dirais, basique pour la comprendre, c'est tant le jongleur que l'objet dans un espace défini tel un cube, qui est notamment la notion de la troisième dimension, et que la troisième dimension en jonglage n'existait pas dans l'époque du jonglage antérieur, qui prenait en compte la 2D, c'est-à-dire la deuxième dimension, pour des raisons extrêmement simples. C'est que faire tenir des objets en l'air, c'est géométrique, c'est mathématique, et que dès l'instant qu'on commence à mettre du cercle dedans ou une troisième dimension, c'est-à-dire le champ de profondeur, là ça pose des sérieux problèmes, d'une part de positionnement du corps et du positionnement de l'objet dans l'espace. Il y a des positionnements très basiques qui sont les plans du cube, c'est-à-dire qu'on a un découpage en cube qui est d'abord le corps coupé en deux, donc on a le dessus, le dessous, après on a le corps divisé en deux, on a le latéral gauche, on a le latéral droit, après on a les diagonales du corps, et on a des éléments qui font appel à une comparaison comme Merz-Cunningham dans ses lignes ou dans ses axes qui lui a permis de fonder sa pratique. Donc c'est une pratique qui a permis de mettre en place une technique de reconnaissance entre les jongleurs pour pouvoir lire le jonglage, pouvoir l'observer, l'étudier et le corriger.
Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ? C'est-à-dire que ce grand renversement, c'est aussi non plus le jonglage et le jongleur qui s'inscrit dans un espace, mais c'est lui qui crée l'espace en fait.
Et c'est lui qui crée, il en est le sculpteur.
Philippe Ménard.
Personnellement, moi je parle beaucoup plus d'une performance. PPP est une performance parce que ça veut dire qu'à cet endroit-là, le jeu est exclu. C'est pour ça que par exemple dans l'écriture, il n'y a pas d'improvisation dans cette écriture. Mais par contre, tout simplement parce que la glace ne me permet pas d'improviser. Mais par contre, une des choses essentielles, c'est que PPP est comme une écriture monologue, narrative, sans ponctuation. Et que finalement, ce sont ces boules qui vont tomber, cette glace qui se casse, qui crée la ponctuation. Mais pour moi, je la vis comme les spectateurs, c'est-à-dire que ces boules tombent de manière aléatoire et que du coup, je ne suis pas en train de jouer la chute, je suis dans le rapport direct, dans le point central entre les spectateurs, l'objet et moi. On vit le même événement au même moment parce que moi, je ne sais pas quand elle tombe et les spectateurs non plus. Finalement, à cet endroit-là, je crée la communion. Ou en tout cas, j'essaie de créer une communion à cet endroit-là. C'est pour ça que finalement, définir, est-ce qu'il y a un dépassement, peut-être qu'il y a le fait d'assimiler petit à petit le fait que les formes pluridisciplinaires comme celle-ci, eh bien, dépassent la forme même du code du spectacle et puis commencent à aborder des mélanges qui sont de la performance, de l'installation. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le pluridisciplinaire dans le sens théâtre, danse, cirque, mais moi ce qui m'intéresse c'est peut-être danse, installation visuelle, performance, le rien, l'analyse même du rien, parce que finalement c'est une part qui n'existe plus dans la société, c'est-à-dire le silence, l'endroit où finalement on doit observer quelque chose, et peut-être ça aussi, ça devient pour moi une matière très importante, l'interruption. Et je pense que c'est peut-être dans ce sens-là. Alors est-ce que c'est un dépassement ? Non, je pense que c'est certainement une suite logique de réflexion.
Comment vous voyez la différence entre la génération, puisque bon, si on parle en termes de génération, qui va être l'un des points culminants du cirque contemporain, c'est-à-dire celle de Johan Le Guillaume, Jérôme Thomas, que cirque, évidemment, c'est cette génération assez flamboyante, et cette autre génération qui lui est liée, parce que souvent ils ont travaillé ensemble, mais qui est quand même plus jeune dans l'ensemble, et qui travaille quand même assez différemment. Quelle différence on peut faire entre ces deux périodes?
Je pense que d'une génération à l'autre, il y avait quand même l'objectif d'aller plus loin,
Yveline Rappeau,
dans les esthétiques, de rechercher des choses nouvelles à dire et à montrer à travers les spectacles de cirque. Ce qui les distingue peut-être, c'est vraiment cette hybridation et le métissage. Peut-être que c'est dans cette direction-là que cette nouvelle génération va aller au plus loin possible dans son exploration.
Ce qu'il y a, c'est que ce sont souvent des spectacles qui fonctionnent aussi en miniaturisation, au sens où il y a un duo, une personne, un dispositif, et non pas un phénomène de groupe. Très souvent, ça fonctionne sur une seule personne, mais qui, en fait, d'une certaine manière, reprend un peu toutes les disciplines.
Alors là, c'est un second phénomène, effectivement, qui caractérise, disons, ce courant émergent que l'on a pu observer depuis quelques années. C'est le développement des formes sous forme de solo ou de duo. Ça, c'est certain aussi, quelles que soient après les esthétiques qui soient travaillées, c'est un phénomène qui s'est fortement développé. Il s'explique à la fois par les sujets, les thématiques, les centres d'intérêt de leurs auteurs, mais il s'explique aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on a, vraiment un problème de support aujourd'hui, des formes lourdes avec 20 artistes au plateau, les collectifs dont vous parliez, les arceaux par exemple.
On peut faire une bulle avec...
C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est un problème puisque la création sous chapiteau, l'itinérance qu'elle suppose, fait partie aussi de la richesse du cirque contemporain et il est à souhaiter, en tout cas nous sommes nombreux à soutenir ces créations pour éviter que tout simplement elles ne disparaissent.
Il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui en repasse par l'unité fondamentale du cirque et le corps, en fait.
Je crois que peut-être que ce passage au spectacle en solo ou en duo, c'est-à-dire qu'il s'est ramassé, à la fois donne, peut-être concentre le propos de manière plus forte que dans une version plus spectaculaire, on va dire, et à la fois les amène à, pour chacun d'entre eux, à peut-être redéfinir par un autre chemin ce qu'est le cirque.
Donc un écrivain avant tout, non seulement de la littérature, on peut dire, qui est liée au livre, mais aussi à la performance, on peut dire aussi au théâtre. En fait, une sorte de... j'aime pas beaucoup le mot parce qu'il a été un peu galvaudé, mais de transversalité. Et cette transversalité, disons, ou plutôt ces déplacements, je préfère le mot de déplacement, t'ont amené jusqu'en fait à l'École nationale des arts du cirque. Comment s'est faite cette jonction, en fait, entre un art qui est le tien, qui est quand même lié à la culture populaire, le dernier livre sur Stephen King, et puis sur d'autres héroïnes aussi qui sont liées à la culture de masse, bon, disons-le comme ça. Comment s'est faite cette rencontre, sur quel point d'appui, sur quel point d'accroche? Et en plus, à Chalon, il y a un chapiteau, donc il y a vraiment la circularité. Il y a tout le dispositif, en fait, qui est en place. Tu aurais pu arriver dans un endroit en frontal, mais là, c'est vraiment une école et en plus, un lieu de transmission. Donc, c'est vraiment un point crucial.
Effectivement, quand je suis arrivé à Chalon, j'ai été étonné par deux choses. La première chose, effectivement, c'est le chapiteau. Enfin, j'avais jamais vu de chapiteau de ma vie d'aussi près, et je n'étais jamais rentré dans un chapiteau. C'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'école. Je suis resté quand même là-bas deux semaines. Je me suis rendu compte que c'était quand même une culture assez particulière, où la question du danger était vraiment très forte. La question du risque, la question de l'accident, voire même la question de la mort. En tout cas, les deux semaines où je suis resté, ils ont appris la mort d'un étudiant, je crois, à l'école du cirque de Sergi Pontoise, je crois, voilà. Donc c'était d'autant plus émouvant que tout ça m'avait sensibilisé à l'arrivée. Et aussi des enseignants qui avaient des trajectoires assez extraordinaires, enfin, comme ce type qui enseignait le trapèze, qui était un des derniers trapézistes à avoir parcouru comme ça toutes les étapes voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ben, ça, je reconnais que c'est vraiment fascinant. Et très rapidement, finalement, je suis rentré dans ce monde-là. Je dois dire que ce n'est pas mon initiative, hein, que je suis allé à l'école du cirque. J'ai été invité là-bas par un homme de théâtre. Ça, c'est intéressant. Christian Benedetti, qui est metteur en scène et qui, donc, à l'époque, était enseignant à l'école. Et qui souhaitait m'inviter comme écrivain.
Mais je pense qu'il y avait quand même aussi le fait de tes propres performances qui rentrait aussi en ligne de compte. C'est pas n'importe quel écrivain.
Oui, parce que la performance telle que je la pratique, c'est quand même un art qui joue avec le danger et avec le risque. Moi, il y a une prise de risque dans la performance, et c'est peut-être l'art, finalement, de la scène où la prise de risque est la plus forte, dans la mesure où le performeur, tel que je l'envisage, n'est pas du tout protégé par un rôle. Il travaille avec sa présence, en son nom propre, même si, bien sûr, son identité, elle n'est pas divulguée. Il ne s'agit pas de dire qu'on est sur scène. Mais il y a l'idée que la présence nue, expose beaucoup plus aux dangers et aux risques qu'un personnage. Après, les raisons pour lesquelles m'a invité Christian Benedetti, effectivement, il avait vu au Festival d'Avignon en 2007, il avait vu mon travail, La jeune fille à la bombe. Et c'est à l'issue de ça qu'il souhaitait m'inviter. Alors effectivement, il avait compris où j'en étais dans la performance et aussi où j'en étais dans la littérature. Et il pensait effectivement, et il avait bien raison, que ça pouvait fonctionner. Donc il m'a mis dans une situation extrêmement délicate, j'ai envie de dire dans une situation qui n'est absolument pas littéraire. Il m'a proposé donc d'écrire en deux semaines un texte pour chacun des étudiants de l'école. Il y en avait une vingtaine. Et à la fin donc des deux semaines d'atelier avec eux, ils ont utilisé le texte que j'avais écrit pour présenter, eh bien, on va dire, un spectacle.
Donc tu n'avais pas introduit ton travail de performeur à l'intérieur même de ce travail, c'est ça que tu
veux dire ? Non, absolument pas. Ouais. Par contre, mon travail de performeur m'a permis de comprendre comment j'allais écrire un texte pour les étudiants. Donc le principe de ce spectacle, c'est que chaque étudiant proposait une forme artistique à partir de leur agrès. Alors il y avait plusieurs files de ferristes, il y avait aussi des trapézistes.
Un machinois, non ?
Oui, c'est ça, un machinois, quelqu'un au trampoline. Et donc j'ai tenu compte des dispositifs de chacun et aussi j'ai tenu compte du risque avec lequel ils jouaient dans chacun de leurs dispositifs pour écrire un texte pour chacun. Et le fait de faire des performances, le fait d'être moi-même dans mon travail de scène, à la fois metteur en scène et interprète, m'a permis de pouvoir travailler assez vite, de savoir très rapidement ce qu'il fallait écrire. Alors, je parlais tout à l'heure de la fascination qu'avait exercé sur moi très rapidement et le chapiteau et tout ce discours sur la sécurité. Ce que j'ai pu vérifier aussi pendant les répétitions, hein, aller voir travailler durement. Je me suis rendu compte de la dureté qu'il pouvait y avoir à être un artiste de cirque. Eh bien, très rapidement, il y a un thème qui m'est apparu. C'est la question des voitures accidentées qui m'est apparue. Donc j'ai intitulé ça « Car crash ». Et à partir de là, j'ai fait une généalogie donc, des accidents de voiture. Et je me suis précipité dès que j'ai pu dans une librairie pour acheter Crash de Ballard. Je me suis documenté aussi sur les attentats terroristes qui utilisent des automobiles. Et à partir de là, j'avais vraiment un sujet qui était vraiment intéressant, qui posait la question de l'habitacle et de la protection avec la voiture, mais aussi la question à un moment de la mort violente. Et je trouvais que ça correspondait exactement à l'idée que je m'étais fait d'un artiste de cirque sur son agrès. En tout cas, très rapidement, il y a quelque chose qui m'est apparu concernant, non pas l'écriture du texte, mais en tout cas concernant la manière dont il allait être utilisé lors du spectacle, à savoir que... Enfin, c'était pas très intéressant qu'il lise le texte.
Christophe Fiat.
En direct. Et donc, très rapidement, j'ai eu l'idée de faire enregistrer le texte pour qu'il soit diffusé à partir d'une sono. Chaque étudiant est passé l'un après l'autre dans un studio d'enregistrement improvisé et a enregistré son texte. Il était question à un moment que je lise les textes, que j'enregistre tous les textes et qu'ils soient comme ça diffusés durant le spectacle, mais ça ne m'intéressait pas, moi, qui est la voix de l'auteur. Ce qui m'intéressait, c'était que justement, qu'il l'intègre... comme des performeurs, c'est-à-dire des performeurs pour le coup de radio, presque à une dimension du rock enfin, ou de la musique, quoi. Qu'ils intègrent le texte pour n'en garder que leur voix enregistrée. Et après, ça les libérait effectivement complètement pour leur travail.
Pour leurs évolutions.
Oui, pour leur évolution.
Parce que, voilà. En fait, ça évite le fait que... On ne peut pas être sur deux, trois trapèzes à la fois et réciter du Shakespeare comme beaucoup l'ont essayé.
Oui. Oui, je pense que c'est impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas intéressant, je crois. Enfin, il pratique un art qui n'a pas besoin de parole. Non, c'est même pas qu'il pratique un art qui n'a besoin de parole, parce que pour bien connaître aussi le monde de la danse, on est dans un art qui n'a pas besoin de parole. Mais c'est pas possible à la fois et d'être un artiste du cirque dans certaines circonstances et de pouvoir accéder à la parole. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes physiques, des contraintes de corps, des contraintes de force qui sont telles que la question de la parole ne se pose même plus. Et pour avoir vu du cirque aussi mêlé au théâtre ou à la danse, ça m'a pas très convaincu, parce que c'est comme si les artistes de cirque étaient là justement pour faire des exploits physiques que ne sont pas capables de faire les acteurs de théâtre ou les danseurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour mettre... pour créer des effets spéciaux, voilà.
En fait, tu les as remixés, en fait, t'as pris leur voix et rediffusé.
Oui, je les ai remixés, mais pas à leur dépens. On en a parlé et ils étaient d'accord. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du remix et la science d'enregistrement. On a assisté à quelque chose d'assez incroyable. Enfin, moi, j'ai assisté à quelque chose d'assez exceptionnel dans la mesure où c'était vraiment une espèce de concert de voix avec des corps qui étaient complètement... Je trouvais le point de départ schizophrénique, c'est-à-dire à la fois demander à quelqu'un d'enregistrer sa voix parce que ce qu'il allait faire le mettait dans l'impossibilité de pouvoir parler. Donc il y a une espèce de dédoublement, enfin en tout cas de coupure d'identité, de rupture avec l'identité, parce que quand même la base de l'identité telle qu'on l'imagine, c'est à la fois de pouvoir dire quelque chose et de pouvoir le faire. Donc le point de départ était schizophrénique, et l'arrivée était complètement paranoïaque. C'est-à-dire, on entendait toutes ces voix se succéder avec des formes artistiques comme ça qui se déployaient les unes après les autres. Et avec le thème des voitures volées, des voitures crachées, des voitures explosées. Et c'était quelque chose d'épouvantable, enfin, au sens du genre cinématographique. Et ce passage de la schizophrénie à la paranoïa, j'ai trouvé ça assez déroutant et assez intéressant.
Thank you.
l'idée de ces deux cubes. Donc il y a un cube exhibition, et puis donc un cube contemplation. Il y en a un qui est disons une macrostructure, et l'autre qui est plutôt une microstructure. D'où c'est venu cette idée? Et ensuite, dans le cube exhibition, d'y mettre en fait un corps humain qui va avoir cette certaine spécificité.
Enfin, vraiment, la base sous-jacente du projet au départ, c'était vraiment des questions sur l'identité et puis sur le corps par rapport à une sensation interne du rapport à la vision et à la vue. C'est-à-dire que, en tout cas personnellement, bien en amont du projet, je me retrouvais avec des difficultés à percevoir mon volume, enfin me percevoir comme volume global et pourtant qui peut se transformer, changer de position.
Laurent Chanel.
À cause de la prédominance du regard qui m'entraînait en externe de ce corps. Et du coup, j'ai senti le besoin de travailler les yeux fermés. Donc, c'est une question sur une vision, cette vision qu'on peut avoir du corps, enfin, vision interne et comment elle peut être mise en externe. Après, moi, dans mon histoire, vu qu'il y a une partie de ma culture qui est celle du jonglage, il y a vraiment eu ce besoin de séparer cette vision du corps par à la fois un endroit où il y a un corps concret et un autre endroit où c'est vraiment un corps abstrait, qui est le cube à contemplation. Et avec ce besoin de complètement séparer ces deux rapports au monde et au fonctionnement d'un dispositif.
Tout en gardant la forme circassienne de 360 degrés, puisqu'en fait, il peut être vu de tous les angles possibles, en fait, ouais. Ce corps, qui est donc mis dans ce cube transparent, et tout en gardant ses fondamentaux.
Bah, je sais pas si c'est en les gardant, en tout cas, c'est en y arrivant. Et plus en y arrivant, quoi. Après, ça, c'est les histoires au niveau d'ARN, les différents projets qu'il y a eu, qui sont plus des projets de performance, en fait, par rapport à des lieux. Et là, ça a à voir aussi avec un autre fondamental du projet qui est autour de la forme géométrique du carré. Où est-ce qu'elle peut entraîner? Quel rapport au monde elle exprime? Et du coup, cette idée de... Parce que nous, on appelle ça des corps dispositifs, en fait. Et vu que c'est des entités, en fait, qui sont autonomes et qui sont faites pour aller dans différents lieux, communiquer différemment avec chaque espace... Le 360, enfin, il est juste, il est fondamental. Enfin, en dehors du rapport au cirque, il y a le rapport au panoptique, il y a toutes ces choses-là qui font que si on ramène ça à un truc frontal, ça n'a plus aucun intérêt.
Et au fond, qu'est-ce qui impulse l'autre? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est le logiciel, l'informatique, la lumière qui impulse sur le corps? Où est-ce qu'il y a un aller-retour entre le corps et les machines?
En fait, chacun a son alphabet. Moi, c'est vrai que je travaillais par rapport au cube. Le mot alphabet, il convient, quoi. Un alphabet de position. Et après, c'est leur agencement et leur déclinaison. Là, par contre, c'est en performance, en temps réel, que ça se décide. Après, sur le corps, il y a un deuxième aspect que moi, finalement, au départ, je le savais pas. C'est-à-dire que ce rapport au cube et tout, il est né par rapport au projet vraiment conceptuellement sur cette idée de cadre et donc la puissance qu'a cette forme. Mais au final, c'est là où on dit que ça part pas du cirque, mais ça y arrive, c'est que c'est devenu vraiment un agrès de cirque. La difficulté de cet agrès, c'est qu'il n'a pas... Il n'a pas son vocabulaire, il n'a pas son histoire. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse et qui me donne envie. Mais par contre, dans le processus, c'est long, laborieux, etc.
Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique.
Michel Foucault.
Corps absolument visible en un sens. Je sais très bien ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un d'autre de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est qu'être épié par derrière, surveillé par-dessus l'épaule, surpris quand je m'y attends le moins. Je sais ce que c'est qu'être nu. Et pourtant, ce même corps qui est si visible, il est retiré. Il est capté par une sorte d'invisibilité de laquelle jamais je ne peux le détacher.
Parce que, ce qu'il y a, c'est que là, on est au-delà d'un personnage. C'est presque l'espèce humaine telle qu'elle peut se modeler, presque à l'infini, en fait, de cette façon. Mais hors d'un personnage, on ne se dit pas en sortant, tiens, voilà, c'était un personnage qui a tel et tel caractère, en fait.
Ça ne parle pas d'un personnage ou de tel individu qui a telle histoire et tout. Ce que je me suis posé, en fait, finalement, c'est qu'est-ce qui nous relie à tous, en fait ? À quel endroit on a une identité commune ? Bon, on peut y répondre de 15 000 manières. Là, sur ce projet, à un moment, la réponse, c'est le point commun, c'est qu'on est tous mortels et qu'on a tous un poids. Et que du coup, d'un point de vue très prosaïque, matériel, quoi, notre réalité, la réalité, c'est que notre territoire corporel, c'est un rapport de volume et de poids. Et ce rapport, il évolue dans le temps. Et de rester ancré là-dessus et de ne pas en déborder, de ne pas aller dans aucune expression de quoi, et de rester à cet endroit-là, et qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Et du coup, le cube à contemplation, il est, pour moi, les deux cubes, exhibition et contemplation, ils parlent exactement de la même chose. À part qu'ils le prennent à deux angles de vue différents, et que finalement, cette identité corporelle dont on parle, elle n'existe pas dans ce qu'on voit dans le projet. Elle est à l'intersection de ces deux cubes. Donc, ce sera en fait ce cube de 1 mètre, dans les recherches purement de vocabulaire et de corps dedans, il y a un moment où, étonnamment, alors que c'est une figure, c'est une des figures les plus géométriques par essence, quoi. C'est vraiment la figure de l'orientation chez les Chinois, par exemple, qui a vraiment ce rapport au carré. Enfin, dans certains arts martiaux, etc., il y a ce truc des 8 directions qui est inclus dans le carré et qui est la figure de l'orientation. Mais finalement, dans ce cube, il y a une perte totale de repères qui fait peur. Enfin, et on ne sait jamais trop comment parler de voir barré au cube, en fait, est-ce que c'est un spectacle, une installation, etc. Enfin, tous ces mots-là. Et en tout cas, le terme d'acte est en train d'y avoir lieu. C'est, je veux dire, la réalité, elle est composée de ça au final. C'est-à-dire qu'il y a un temps présent où il y a quelque chose qui se passe, alors que soit qu'on fait, soit qu'on, soit qui nous arrive. Et moi, pour moi, une des essences du cirque qu'il y a, c'est dans ce rapport à la monstration qu'a le cirque, c'est-à-dire face à un public. C'est pas le seul, évidemment, art à fonctionner de cette manière-là, mais c'est un de ceux où c'est fondamental chez lui. C'est le personne qui pratique le cirque, qui fait devant un public, il fait un acte, il fait ce qu'il a à faire. Et tout le reste, pour moi, c'est du blabla, c'est une esthétique qui a été à un moment qui est tombée à une certaine année où les gens n'en bougent pas, et qui est finalement une esthétique qui est très récente, mais que les gens utilisent en faisant croire que c'est l'esthétique traditionnelle, etc. Enfin voilà. Mais fondamentalement, c'est ce rapport-là à l'acte, quoi. Que ce soit un jongleur, un acrobate ou qui que ce soit, il est dans faire ce qu'il a à faire. Et après, que ça raconte des choses aux gens ou pas, il y a un endroit, c'est pas son problème.
Vous, donc, comment vous commencez à 8 ans à Bruxelles, donc bah, je parle du cirque évidemment, et puis tout d'un coup il y a un coup d'arrêt et vous revenez, en fait.
Mon arrêt était plus ou moins net, on va dire, dans le cirque. C'est-à-dire que, voilà, comme j'ai eu un cancer des os à 18 ans, il y a eu un petit temps comme ça d'adaptation où je me suis posé la question, juste à cette période où je partais pour devenir professionnel, où je prenais ce chemin-là, c'est poser la question de je continue pas.
Edith Abbé.
Et j'ai plus été attiré par des questions de jeu d'acteur et de mouvement. De par cette situation, comme je suis resté statique longtemps, voilà, à l'hôpital, et que j'étais tout le temps en train de bouger, en mouvement, dans une recherche technique, dans la performance, les questions de la vie sont venues à moi, si vous voulez, dans l'autre sens. Et donc voilà, donc ces questions, elles me grattaient de plus en plus, et à un moment donné, il faut juste passer à l'action. Et à cet endroit-là, la rencontre avec Mathurin était,
a été très claire.
Là, il y a une sorte de morale ou d'éthique dans le cirque depuis très très longtemps, c'est d'intégrer tout. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un, un acrobate tombait, par exemple, on lui trouvait autre chose. Il faisait, la naissance du clown, c'est légendairement quelqu'un qui est tombé d'un cheval et en fait et qui s'est fracassé et qui a fait autre chose.
Le cirque porte ça aussi, hein, cette
Mathurin Bolz.
Capacité d'intégrer la différence, c'est-à-dire qu'entre... y a des frics dans le cirque, il y a la grâce des acrobates, il y a toute cette mythologie, mais au départ, quand on commence le cirque il y a 20 ans ou 25 ans, c'était des choses qui faisaient sens pour nous et puis qui petit à petit ont contagionné un peu, où on se dit aujourd'hui le cirque représente cette capacité d'adaptation, représente cette capacité d'intégrer d'autres arts, et maintenant il y a la chose inverse qui se propose aussi, c'est-à-dire que le cirque intègre la danse, intègre le jeu ou les arts plastiques à la même échelle.
Et même ça va très loin parce que même l'un peut échanger son corps contre l'autre, enfin l'un peut tout à fait donner son corps à l'autre et dans les deux sens. Ça va du refus au don, enfin on arrive justement à un jeu des contraires qui englobe quasiment tout, presque les possibilités de relations humaines. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en 25 minutes, il y a pratiquement toutes les capacités de relations humaines qui sont évoquées en fait à l'intérieur.
Mais moi j'ai l'impression, comme ça quand vous en parlez, Mathurin et moi on a le même parcours de gosse au niveau du cirque et technique. On s'est connus, lui évoluait dans l'acrobatie, moi plutôt dans le jonglage, bien que forcément j'ai touché un petit peu à tout. Et je crois que de cette sensation qui a été, je pense, les joies qu'on a eues aux mêmes endroits, comme ça, étant gosse et adolescent, on cherche à jouer aussi. On a envie de jouer comme ça quand on est dans le cirque. C'est par exemple l'endroit des béquilles ou de mon corps, on se donne le corps. C'est presque comme si on est toujours resté à cet endroit du jeu, de la curiosité, de nos origines, on va dire, du cirque, et que moi je venais avec un agrès comme ça. Voilà.
Les béquilles
et même mon corps aussi. C'est comme si l'accident de la vie a fait que maintenant on peut l'essayer comme ça. Et ça, la curiosité, elle est extrêmement ludique. Elle propose beaucoup de choses. Elle est justement pas contraignante. C'est-à-dire de la manière, l'endroit où on l'apprend, je veux dire l'endroit de l'amitié. Il y a rien qui peut être tragique. Si on est en bonne compagnie, on va où on veut. C'est comme si ça aurait pu être tout à fait dans l'autre sens. Que ça se passe pour Mathurin, qu'il ait un œil en moins. Et moi, j'aurais tenté le coup à cet endroit-là. Je veux dire, voilà, après, c'est...
Camus, il dit deux hirondelles qui se partagent... non, c'est pas Camus, c'est Char qui parle de son amitié avec Camus et qui dit deux hirondelles qui se partagent l'intimité du même auvent et l'infini du même ciel. Je le sabote, mais c'est ça. C'est à cet endroit-là. C'est que c'est... Ça a des proportions inouïes, ça englobe la solitude, ça...
Oui, parce qu'il y a aussi toute la part du négatif, c'est-à-dire que dans Ali, il n'y a pas que, au fond, une sorte de politiquement correct qui serait l'entraide des êtres humains entre eux, la gentillesse, etc. Il y a aussi des choses qui peuvent être monstrueuses, il y a aussi des choses qui peuvent être d'une très grande noirceur, d'un très grand humour.
Ça respecte juste aussi la solitude, c'est-à-dire que, voilà, après la rencontre, c'est un levier pour la solitude. Ça permet d'être mieux seul, de rencontrer. Mais on est seul, je pense. Enfin, c'est mon avis. Je suis désolé, Mathieu. et voilà. Et donc, ce qui est béni, c'est la courte échelle jusqu'aux étoiles, quoi, de rencontrer des amis, des frères. Mais je pense que ça parle complètement de ça. On vient tout seul et puis on s'en va tout seul. D'ailleurs, dans la pièce aussi, on se casse chacun, on reste chacun dans notre coin, mais chargé de ce voyage.
Voilà, cette chose. Et il parle d'un songe.
Oui, c'est ça, voilà. On est plongé dans un rêve, en fait. C'est une structure de rêve, en fait.
Et ça, je pense aussi que cette histoire de songe n'était pas la vingtaine de minutes. Pour moi, c'est presque le temps comme ça de... d'une
sommeil.
Ouais. Vous avez aussi le bruit du dehors, ouais, et des sensations physiques, ouais, qui sont complètement étranges. Donc il y a ce côté, bon voilà, je prétends pas du tout être arrivé à ça. Maintenant c'est tout, c'est juste des inspirations qu'on a, mais en tout cas ce temps-là, en tout cas, on avait parlé d'un songe même guerrier, en fait, entre nous. C'est-à-dire, oui, juste de voilà, on sait, on se ménage pas par respect, en fait. C'est pour ça qu'on se ménage pas. C'est parce qu'on se respecte et que dans ce songe, c'est-à-dire que juste la manière de s'approcher, de se tenir, de se serrer, c'est aussi des façons qui sont propres, un petit peu au rêve, qui sont un peu, je veux dire, on peut pas s'aborder comme ça, malheureusement, dans le quotidien, sous peine d'être pris pour je sais pas quoi, pour un fou, peu importe. Et voilà, et donc il y avait la place à cet endroit-là, et on l'a senti, je pense, tous les deux, ce songe, mm-hmm, et cette durée de...
Il y a des gens qui pensent que ça a duré une heure. Hein.
Oui, oui. Parce que dans les rêves, en fait, c'est dilaté. Tout d'un coup, on regarde la montre et on a fait un grand rêve.
Orlan.
Je n'ai pas du tout commencé par la performance. J'ai commencé vraiment comme n'importe quel autre artiste, par la peinture, le dessin, la sculpture. Et à un moment, je me suis dit que tout ça était absolument absurde, qu'il y avait des choses à faire beaucoup plus importantes à mon époque, et que le corps, c'était quelque chose d'extraordinairement politique, et que dès qu'on touchait au corps, eh bien, on touchait au politique, et qu'on faisait tout bouger, qu'on pouvait signaler, signifier, pointer des choses qu'on ne peut pas pointer de la même manière quand on fait de la peinture ou de la sculpture. Et donc, c'était une époque, bien sûr, de grandes revendications de la contraception, de l'avortement, du droit à la parole, du droit à la jouissance, de la nudité, d'être dans la rue, de pouvoir aller dans un bar en tant que femme. Donc, à un moment, j'écris un texte en disant que le corps était un matériau parmi les matériaux et que j'allais arrêter de peindre et de sculpter, mais que j'allais faire des choses et des actions, on pourrait dire directes, avec le public, donc des actions de rue. Et j'ai fait beaucoup d'actions qui s'appelaient Action Orlan Corps, où j'ai mesuré avec mon corps des rues. Donc est arrivée la performance. Mais en fait, après... Une attitude classique. Ce qui m'a décidé, c'était vraiment, en tant que femme, pouvoir prendre la parole et différemment et dans la rue.
Et dans la référence que vous avez, ouais, c'est un des films préférés, c'est, vous savez, l'année des 13 lunes,
ouais, de Fassbinder.
Mais à ce moment-là, le trans était révélateur d'une société et était un élément subversif, au fond. Fassbinder s'en servait de manière un peu perverse, d'ailleurs, parce que voir comment il traitait ses acteurs. Mais il y avait un élément fort, politiquement fort. Et puis, si on reprend toute cette histoire, même en France, le phare, etc., et tout ça, il y avait un élément de pensée critique, au fond. Vous, à quel point vous situez ? Est-ce une référence purement, disons, esthétique, plastique, ou ce contenu qui a porté, disons, après 68 et toutes les années 70, est quelque chose qui vous touche, en fait ?
Bien sûr que ça me touche, parce que toutes ces références-là sont extrêmement importantes, puisque c'est celles qui m'ont permis, et vraiment à un moment, de me dire, je n'ai pas d'autre choix, si je veux survivre, c'est dans l'art.
Philippe Ménard.
En tant que personne transgenre, le seul endroit où je peux vivre, c'est dans l'art. Alors, à cet endroit-là, je dirais presque que c'est ma démarche derrière. Mon acte politique aujourd'hui, il est de dire, voilà, nous ne sommes pas dangereux. Nous ne sommes pas des malades mentaux. Nous ne sommes pas... et que finalement, le plus bel acte à faire, c'est de dédramatiser cet acte. Car c'est un des très beaux voyages. Et peut-être, C'est ce qu'on peut percevoir dans le film de Fassbinder, qui est terrible. Ouais. Mais finalement, ce qu'il montre, c'est un voyage, et que c'est cette personne qui est en effet trans, essaie quoi ? Elle essaie de vivre et de bien vivre, de survivre, de trouver l'amour. Parce que finalement, lorsqu'on est dans des questions d'identité, la question de l'amour est essentielle, mais on ne sait pas où aller le chercher. Je pense que le symbole de cette scène au début, dans l'abattoir, où on fait ce long travelling sur ce corps, le corps de la vache qu'on décapite et ainsi de suite, tout ce sang, finalement, c'est tout ce parcours terrible qui est vécu dans la quête de l'amour et dans ce flot de la violence. Et il est là. D'un point de vue de l'esthétique, il est très brut.
Vous pensez que l'aspect transgressif que ça avait est encore opérant aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui on a esthétisé tout ça. Ouais. Regardons l'image qu'on en a des transsexuels en général, c'est la pin-up, plus femme que femme, ou plus image de la femme que image de la femme. On en a transformé, encore une nouvelle fois, l'image. À cette époque-là, l'image est très brute. Ce sont des gens qui veulent simplement être des femmes.
Peut-être faudrait-il descendre encore au-dessous du vêtement.
Michel Foucault.
Peut-être faudrait-il atteindre la chair elle-même.
1966.
Et alors on verrait que, dans certains cas, à la limite, c'est le corps lui-même qui retourne contre soi son pouvoir utopique et fait entrer tout l'espace du religieux et du sacré, tout l'espace de l'autre monde, tout l'espace du contre-monde, à l'intérieur même de l'espace qui lui est réservé. Alors, le corps, dans sa matérialité, dans sa chair, serait comme le produit de ses propres fantasmes. Après tout, est-ce que le corps du danseur n'est pas justement un corps dilaté selon tout un espace qui lui est intérieur et extérieur à la fois ? Et les drogués aussi, et les possédés dont le corps devient enfer, les stigmatisés dont le corps devient souffrance, rachat et salut, sanglant paradis.
Royaume Forain Remix, deuxième partie, hors piste, les corps des limites. Avec Laurent Chanel, Philippe Ménard, David Bobet, Christophe Fiat, Yveline Rapeau, Jérôme Thomas, Orlan, Mathurin Bolz, Edith Abbé. Lecture, Juliette Piedvache. Remerciements, Paris Villette et la manifestation des auteurs des Cirques Limites. Mixage, Alain Joubert. Prise de son, Laurent César et Julien Douminc. Coordination, Anne-Vanessa Prévost. Une émission de Yann Siré, réalisée par Anne Fleury. Demain, troisième volet, Bartholbaï et la chute, les cabarets du fiasco.